Vous écoutez
RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
8h29 sur RMC et BFM TV. Bonjour Gilles Kepel.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes professeur émérite des universités spécialistes du Moyen-Orient. Votre dernier livre, Antiterrorisme, la traque des djihadistes, c'était aux éditions Plomb. Est-ce qu'on peut encore parler ce matin de cessez-le-feu? La situation est très tendue. Qui des États-Unis ou de l'Iran a l'avantage? On va essayer de comprendre tout ça avec vous. Mais d'abord, cette question, lorsque l'on a vu hier des bombardements, notamment des tentatives sur les Émirats Arabes Unis venant de l'Iran, la question que je me pose ce matin, c'est pourquoi l'Iran? Pourquoi l'Iran reprendrait l'initiative éventuelle d'une cessation du cessez-le-feu et d'une reprise des hostilités?
En fait, ils sont dans une situation de ni guerre ni paix. Et il n'y a pas franchement de reprise des hostilités, mais il y a des pressions militaires, et celle que vous venez d'évoquer est très significative, puisque c'est sur Fujairah, c'est-à-dire le terminal pétrolier des Émirats Arabes Unis qui donne sur la mer d'Arabie ou mer d'Oman, c'est-à-dire au-delà du détroit d'Ormuz, juste après que les Émirats se sont retirés de l'OPEP, au moment où il est devenu public que le dôme de fer israélien avait été déployé sur leur territoire, dans le cadre des accords d'Abraham. Et donc, les Iraniens ont voulu montrer que sur cette affaire, ils étaient vigilants et qu'ils allaient taper ce point-là. C'était aussi une manière d'accroître les contradictions à l'intérieur des pays arabes du Golfe, puisque d'un côté...
Enfoncer un coin, voilà. Les Émirats Arabes Unis d'un côté,
l'Arabie Saoudite de l'autre, etc. Les Émirats se sont maintenant rapprochés du Bahreïn, ils ont racheté la dette du Bahreïn que les Saoudiens avaient laissé un peu tomber. Les Saoudiens se rapprochent, eux, du Qatar, ce qui était tout à fait contre nature autrefois. Et quant à l'Oman, il a reçu le ministre des Affaires étrangères iranien longuement la semaine dernière. L'Oman n'est pas allé au sommet du GCC, du Conseil de coopération du Golfe à Jeddah. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'éparpillement dans le Golfe, dont évidemment Téhéran tire tous les bénéfices.
C'est extrêmement intéressant, on a l'impression avec vous que le puzzle se redessine en quelque sorte en ce moment, au-delà de la seule question de l'affrontement entre les États-Unis, l'Iran et Israël. Cette histoire quand même des Émirats Arabes Unis. Vous avez mentionné le dôme de fer israélien qui aurait été, semble-t-il, ça n'a pas tout à fait été confirmé, utilisé pour protéger les Émirats Arabes Unis, pour intercepter certains missiles iraniens?
Oui, en tout cas au moins sur Abu Dhabi, parce que les Émirats sont assez étendus. Vous avez deux parties, vous avez la zone Abu Dhabi-Dubaï, et puis vous avez l'émirat de Fujairah, qui lui traverse la péninsule du détroit d'Ormuz, si vous voulez. Au nord, vous avez un morceau de l'Oman, du Sudanois, qui s'appelle Mosandam. Au sud, l'Oman avec Mascate, et vous avez ce corridor qui permet aux Émirats d'avoir une fenêtre sur la mer d'Arabie, ce qui lui permettait en tout cas d'exporter jusqu'à aujourd'hui 3,5 millions un peu moins de barils de pétrole par jour, ce qui lui assurait d'une certaine façon sa capacité de fonctionnement, et surtout s'il sortait de l'OPEP, il pouvait l'augmenter. Donc ce sont des frappes qui sont menées par l'Iran de manière à faire dérailler un processus ici, en encourageant, ils ne tapent pas sur l'Arabie Saoudite, par exemple, parce qu'ils veulent l'encourager à trouver des accommodements, et briser la stratégie américaine de soutien à l'ensemble des pays du Golfe.
Et évidemment, on va se poser la question dans un instant de savoir si ce détroit d'Ormuz peut être libéré, et s'il y aura des répercussions, des réponses, et une reprise franche et massive des hostilités. Mais avec cette idée d'avoir été cibler les Émirats Arabes Unis, est-ce qu'au fond c'est une manière pour l'Iran d'entraîner les pays du Golfe dans cette guerre, et est-ce qu'au fond ils vont vraiment y aller? Est-ce qu'il pourrait y avoir des répliques?
Non, je crois qu'ils ont ciblé les Émirats parce qu'ils ont vu qu'il y avait aujourd'hui une rupture. C'est un certain niveau de rupture entre les Émirats et les autres. Ils n'ont pas ciblé les autres. Ils ont fait ça exprès pour attiser les contradictions.
Et on précise que deux personnes ont été blessées après qu'un immeuble résidentiel à Oman aussi a été visé par une attaque. Ça paraît plus surprenant.
Oui, alors, ils ont déclaré dans le passé, du genre les Iraniens, que des attaques sur Oman n'avaient pas été de leur fait, qu'ils les avaient démenties. Ils ont peut-être eu lieu, mais ils sont souvent attentifs justement à ménager le sultanat d'Oman, parce que dans leur esprit, si péage il y a, ce dont ne veut pas la communauté internationale évidemment,
ce sera forcément entre les deux.
Voilà, l'idée c'est
Oman d'un côté, les côtes iraniennes de l'autre.
Négocier avec les Irans un partage, pour les Omanais ça va être compliqué. Mais en tout cas, ça fait partie des fers qu'ils conservent au feu.
Gilles Kepel, les frappes sur les Émirats arabes unis n'ont pas non plus été tout à fait revendiquées par l'Iran. À quoi joue l'Iran, y compris en termes d'opinion publique ou de communication?
Mais c'est précisément ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une situation de ni guerre ni paix.
Et on n'assume pas.
Non,
mais on fait dérailler.
Mais on montre qu'on est capable de faire dérailler les processus. Et c'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Sayed Abbas Araghchi, en disant mais les Américains sont fous de vouloir passer en force. La seule chose qui est faisable, ce sont les négociations. Et quand il dit ça, il reprend, ou il fait semblant de reprendre, ce que disent les Européens. Le président Macron, le chancelier Merz ont également dit
il faut reprendre les négociations.
Une manière négociée de sortir de la crise du détroit d'Hormuz. Oui. Donc vous avez une espèce d'habileté iranienne. Hein. Ce sont des gens qui sont rompus à la diplomatie depuis des années. Et face à cela, vous avez des promoteurs immobiliers, sans rien contre cette profession par ailleurs, qui veulent faire des deals immédiatement. Et on voit
donc
bien.
Donc on veut des deals d'un côté, on veut une sorte de diplomatie madrée de l'autre.
De l'échiquier, si vous voulez, oui.
Est-ce que les négociations, c'est encore possible?
Alors, c'est possible plus ou moins, c'est-à-dire que il y a toujours des propositions qui circulent à travers le Pakistan, d'un côté et de l'autre. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est le suivant. Les Américains voudraient qu'il y ait une négociation qui ne porte que sur la liberté de navigation dans le détroit d'Hormuz. Et vous savez qu'il y a toujours 900 bateaux qui sont coincés, avec à peu près 20 000 marins, d'après les chiffres, dont on apprend aujourd'hui que c'est de plus en plus difficile, il n'y a plus de nourriture, ils sont là depuis maintenant plus de 2 mois, la situation n'est pas du tout simple, il y a une espèce de promiscuité, etc. Donc pour les armateurs, ça pose toutes sortes de problèmes, les assureurs, etc. Il y a cette dimension-là. Donc les messages passent. Et mais l'Iran veut dire non, on veut négocier, mais on s'arrête là. Alors que les Américains disent on empêche ça et il y a derrière le nucléaire.
Mais qui bluffe? Il y a quand même cette question fondamentale du passage ou non les deux, du passage ou non de bateaux américains. Du côté des États-Unis, on dit il y en a quelques-uns qui sont passés. Du côté de l'Iran, on dit c'est n'importe quoi. Quelle est la réalité et est-ce que tout cela peut s'embraser dans les heures qui viennent?
Alors, s'embraser, je ne crois pas que ni l'un comme l'autre y ait intérêt immédiatement. Puisque l'Iran a cette espèce de stratégie de harcèlement avec comme objectif que les sondages de Donald Trump dans la perspective des midterms soient de plus en plus mauvais et de le pousser à la faute. Puisque, en fait, il y a une échéance fixe du côté américain, ce sont les élections de la mi-novembre et les contradictions dans lesquelles est pris le président des États-Unis. De l'autre côté, pour l'Iran, il n'y a pas d'échéance fixe. Les Pasdaran veulent essayer de tenir le plus longtemps possible, mais en tenant, ils continuent à faire que l'économie se dégrade, la société n'en peut plus, etc.
Donc il y a quand même, en réalité, deux temporalités. Il y a une temporalité politique et financière, malgré tout, aussi du côté américain, puisque la question du coût de la guerre commence à être une question récurrente dans l'opinion publique américaine. Mais de l'autre côté, côté iranien, à la fois, on a le temps pour soi parce qu'ils sont dans une logique d'un régime qui tient et qui est jusqu'au boutiste, mais avec une économie qui aujourd'hui est quand même nettement fragilisée. On parlait de la question du stockage de leur pétrole. Est-ce que ça reste une échéance qu'ils ont en tête?
Alors, sur les Américains, déjà, il y a ça, vous l'avez évoqué. Il y a aussi, par exemple, l'augmentation du nombre de faillites des agriculteurs américains, parce que les prix du carburant sont envolés et il n'y a pas eu d'économie d'énergie aux États-Unis parce que c'est un pays producteur. Mais
les engrais, on parle beaucoup aussi de la question des engrais, de la saison des
travail. Ce sont les grosses masses électorales du Parti républicain. Vous voyez, ça, c'est un vrai problème pour
Donald Trump.
Pour Donald Trump. Alors, du côté du contre-blocus, c'est-à-dire, on s'était dit, quand il y a eu l'initiative, il y a une dizaine de jours, des Américains de bloquer en mer d'Oman ou en mer d'Arabie, comme on l'appelle, la sortie et l'entrée vers le Golfe ou à partir du Golfe, le navire qui allait en Iran, qui sortait avec du pétrole iranien, on s'est dit à ce moment-là, un peu vite, c'est fini, le stockage va être saturé, il va falloir que l'Iran ferme ses puits, ils seront difficiles à remettre en marche, les Chinois ont déjà payé, etc. Ils sont aux abois, ils vont lâcher. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a beaucoup de navires iraniens ou avec d'autres pavillons, mais avec du pétrole iranien, qui sont aujourd'hui en mer de Chine, qui sont sur les eaux, qui ne donneront, parce qu'il faut 2 mois à peu près de navigation pour aller en Chine, qui ne délivreront leur pétrole un peu plus tard.
Donc ils ont en réalité quand même des réserves d'argent à venir.
Ils ont de quoi tenir. En gros, l'Iran a de quoi tenir. Aujourd'hui, au moins jusqu'à la fin de l'été.
Donc quand on parlait des 20 jours de stockage avant que les sites de stockage ne soient saturés et que donc qu'ils soient obligés éventuellement de fermer le robinet des puits de pétrole, en réalité, ils ont davantage de temps devant eux.
Semble-t-il, oui. Et ça, c'est ce calcul qui avait été fait de manière un peu erronée, probablement, qui, du coup, rend plus difficile la stratégie de pression maximale.
Est-ce que ça veut dire, Gilles Kepel, que vous diriez ce matin que c'est l'Iran qui a l'avantage?
Alors, c'était les États-Unis qui avaient l'avantage indéniablement quand il y a eu le contre-blocus. Aujourd'hui, l'Iran a effectivement marqué sa capacité à résister. Parce que dans l'affaire aussi, outre la temporalité que vous avez mentionnée, pour l'Iran, il suffit de ne pas perdre pour avoir gagné, d'une certaine manière, dans cette affaire. Alors que les États-Unis ont besoin de gagner pour gagner. C'est pas la même chose. Et vous voyez des soutiens dans une partie du monde, du Sud global, qui finalement considère que l'Iran a résisté à l'impérialisme américain.
Contre le grand méchant impérialiste américain. Oui.
Donc tout ça est en train de changer, et ça n'est pas sans évoquer du reste ce qui s'était passé après le 7 octobre 2023, où tout le monde avait trouvé que c'était affreux ce qui s'était passé à Gaza, le massacre en Israël plutôt, l'enlèvement des otages, le massacre
du 7 octobre,
etc.
Ensuite, ça s'est
inversé en soutien à ceux qui avaient
Vous estimez qu'au fond, presque du point de vue désormais politique ou de communication, le fait même que l'Iran tienne, c'est en soi une forme de victoire,
c'est un succès temporaire. Ce pourquoi vous avez, je vous dis, on l'a dit tout à l'heure, Araghchi qui reprend quasiment délibérément des éléments de langage qui sont ceux des Européens, en disant il faut une solution négociée sur le détroit d'Ormuz, et puis le nucléaire, on verra plus tard.
Mais c'est presque ironique.
Oui, bien sûr. Mais
c'est au moins cynique.
Ils font, oui, bien, tout à fait cynique. Ils font feu de tout bois, bien sûr.
Gilles Kepel, hier, l'agence de presse Reuters avait certaines informations qui lui laissaient croire que l'Iran n'aurait besoin, je cite, que de 9 à 12 mois pour obtenir l'arme nucléaire. Comment est-ce que c'est possible, ça, alors qu'il y a eu la guerre des 12 jours avec les bombardements, alors qu'il y a eu ces 66 jours donc de guerre depuis le déclenchement?
Oui, puis on ne sait pas vraiment ce qu'il en est.
Est-ce que là encore, c'est une forme presque... L'Iran n'a pas forcément intérêt à revendiquer cette capacité si rapide?
Oui, dans une certaine mesure, pour pouvoir apparaître comme une puissance de paix, si vous voulez, auprès de ses soutiens. Mais en même temps, c'est ce qui fait la force du régime et sa capacité. Nous aurons la capacité d'utiliser le nucléaire, et nous n'avons pas peur des États-Unis dans un monde qui est complètement délabré, où les alliances sont en train de se briser. Tout ça se fait dans un contexte où l'OTAN est en train de cesser d'exister, si vous voulez.
Qu'est-ce qui peut se passer maintenant, dans cette espèce de moment où vous le dites, on n'est plus vraiment en guerre, mais on n'est pas non plus du tout en paix?
C'est-à-dire que c'est pas seulement, d'une certaine manière, ce qui se passe dans le Golfe aujourd'hui est un révélateur aussi de ce qui se passe ailleurs dans le monde. Regardez l'autre front, le front israélo-libanais, est aujourd'hui dans une situation absolument catastrophique. Donald Trump souhaitait que le président libanais Joseph Aoun et Bibi Netanyahou se serrent la main à la Maison-Blanche et fassent la paix. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Que le président libanais aille serrer la main au Premier ministre israélien, avec l'armée israélienne qui est toujours présente dans la zone
sud du Liban,
et qui, jour après jour, envoie des bulldozers raser les habitations des villages chiites et des villages chrétiens.
Ça veut dire qu'Israël est en train de détruire sa propre capacité à pouvoir négocier, alors qu'il y avait une sorte de début d'espoir, oui, de dialogue voilà, au minimum avec le voisin libanais.
Bien sûr, l'argument d'Israël, c'est qu'il y a toujours les roquettes du Hezbollah qui arrivent. Et là aussi, ce qui est très frappant, vous voyez, le développement des armes, le Hezbollah dispose maintenant de mini-drones à fibre optique qui ont fait des ravages parmi les soldats israéliens, qui ont fait tomber un hélicoptère, etc. Et donc, il y a cette dimension-là qui est aussi tout à fait
stupéfiante. Mais ça, pardon, c'est assez inouï. C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que jour après jour, au fond, ce que l'on imaginait être des capacités détruites du côté de l'Iran, ou au minimum affaiblies du côté de l'Iran, du côté du Hezbollah, on a l'impression que quand il n'y en a plus, il y en a encore.
Oui, et ça, le Hezbollah, c'est quand même quelque chose de tout à fait stupéfiant, parce que en septembre 2024, il y a eu la fameuse affaire des beepers piégés, vous vous souvenez?
Mais ça veut dire que le Liban a été complètement poreux, oui, en quelque sorte, à une forme d'entrisme, mais y compris matériel,
oui, par les gardiens de la Révolution, qui ont reconstitué complètement le Hezbollah. Alors, est-ce que c'est arrivé par l'aéroport qui est en zone chiite, par la mer, ou aussi par des tunnels venant par la Syrie d'Ahmed al-Sharaa, pourtant très opposé à l'Iran, mais il faut bien faire des affaires, et la Syrie est aussi en train de réexporter du Captagon vers le Golfe aujourd'hui, parce qu'ils ont besoin d'argent.
Au moment où l'on se parle, le président du Parlement iranien, à l'instant, dit, je cite, que l'Iran n'a même pas commencé son bras de fer avec les États-Unis sur le détroit d'Hormuz. On est encore dans la relation, le bras de fer, la relation, le rapport de force, et cette revendication que on en a encore sous le pied. C'est ce que nous disait Zéranien.
Oui, c'est ça, en évitant de mettre ses forces en action. Parce que là, il va falloir, il y aura un test de vérité. Pour l'instant,
on n'y est pas encore à ce test de vérité.
Non, je pense que vous pensez toujours qu'il y a les Pakistanais continuent à faire passer des messages d'un côté et de l'autre. Et l'objectif des Iraniens, c'est de faire en sorte qu'à un moment, Trump, voyant qu'il n'arrive pas, en dépit des destroyers qui ont été envoyés, etc., à une solution significative d'ouverture, accepte de faire une négociation sur le détroit et dise, dans un deuxième temps, on verra ce qu'il en est du nucléaire. Et à partir de ce moment-là, l'Iran aura acquis un avantage. Mais les États-Unis ne veulent pas lui laisser cet avantage, parce que sinon, c'est toute la réputation de Trump qui s'effondre. Et vu l'état des sondages aujourd'hui, vu l'état... Alors, c'est très bien, l'économie américaine est très contrastée. La bourse n'a jamais été aussi haute, grâce aux valeurs technologiques, l'intelligence artificielle, etc. Mais en même temps, le prix du pétrole n'a jamais été aussi élevé. Et donc, on est dans un contraste qui est pas terrible pour les électeurs.
Une dernière question, Gilles Kepel. La Chine, dans cette histoire, est-ce qu'elle a une réelle influence? Comment est-ce qu'elle tire son épingle du jeu? On a quand même l'impression qu'elle regarde tout ça avec beaucoup d'attention.
Oui, alors eux, ils ont vraiment des stocks de pétrole très importants. Ils soutiennent l'Iran en le finançant essentiellement. Mais en même temps, l'empire manufacturier chinois a besoin d'avoir une assurance régulière d'approvisionnement énergétique. Donc là, il y a un grand point d'interrogation pour eux. D'autre part, eux voient dans la baisse du nombre de missiles américains quelque chose qui est très bien, puisqu'il y en aura moins qui iront défendre Taïwan. Mais je ne pense pas que la Chine soit prête aujourd'hui à un affrontement avec les États-Unis. Elle attend son heure. Et évidemment, l'affaiblissement américain qui apparaîtrait jour après jour ferait ses affaires. Un autre enjeu, c'est la Russie. La Russie qui aurait dû être enrichie par la hausse du pétrole. En fait, ça n'est pas si clair que ça, puisque depuis qu'il y a plus d'investissements étrangers en Russie, le système d'exploitation pétrolière s'est beaucoup affaibli. Ils sont très au-dessous de leur quota de l'OPEP. Et surtout, ça qui est très étonnant, c'est l'histoire de l'Ukraine. L'Ukraine qui avait été attaquée par des drones iraniens en grande quantité vendus par l'Iran à la Russie a réussi à construire des espèces de machines anti-drones Shahid qui valent trois fois rien et qui sont en train de vendre aujourd'hui, très cher je le suppose, mais beaucoup moins cher que les Patriotes, aux Émiratis, aux Saoudiens.
Et c'est effectivement assez inouï de voir d'un front à l'autre.
On voit comment tous ces conflits divers d'une certaine manière s'imbriquent dans un système où les alliances sont en train de se dissoudre et où Trump crache sur l'OTAN tous les jours.
On reconstitue effectivement le puzzle. Merci beaucoup Gilles Kepel d'avoir répondu à mes questions ce matin sur RMC BFM TV.